Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
Bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines. Il propose, avec Marie-Laurence, son épouse, à travers des parcours divers, au sein de l'Institut de formation psychrétien, une aide thérapeutique permettant de se réconcilier avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité et avec les autres dans la perspective d'être plus ouvert à l'action de Dieu dans nos vies. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Voilà, ben bonsoir et puis bonne année à vous et à votre famille et merci aussi pour toute l'aide que vous apportez à nos auditeurs au cours de ces, par votre travail au cours de ces émissions, hein, et puis dans la vie aussi, voilà. Dans votre cabinet. Voilà, et nous en rendons grâce et puis très certainement ce que nous allons dire ce soir est à mettre, on va voir ça dans les souhaits pour chacun en cette nouvelle année, hein. Alors, donc, notre sujet de réflexion et de partage, pour commencer l'année, quel est notre degré de libre arbitre? C'est une question importante dans nos vies, ça, Pascal Parinet.
Oui, parce que c'est le libre arbitre, c'est la liberté de choix. Et c'est important d'avoir cette liberté de pouvoir choisir. Quand on agit, pour tout.
Pour tout ce qui nous concerne
dans la vie, on a besoin de pouvoir choisir.
Les grandes choses et les petites choses.
Oui.
Tout, une question. On a toujours des choix. Et des fois, on ne se rend pas compte, justement, mais dans des petites choses, qu'on peut choisir une chose ou une autre. Et parce qu'on le fait des fois, peut-être automatiquement.
Oui. Tout à fait. Toutes nos actions, tout ce qu'on fait,
oui.
Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait.
Oui, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait.
Et confronté à un choix.
Tout ce qu'on pense aussi, quelque part.
Alors, tout ce qu'on pense aussi.
On peut orienter. On a le choix entre, par exemple, des pensées positives ou négatives. Enfin.
Mais oui, on a le choix. Sur soi. Alors, voilà, il vaut mieux travailler sur soi pour devenir en quelque sorte plus positif, que de lutter contre des pensées négatives oui. qui existeraient, parce que souvent ça fait que les renforcer. Donc il vaut mieux faire un travail pour voilà, pour entrer dans une créativité oui. ou dans un ajustement créateur, on appelle ça.
Mais c'est un choix aussi.
Alors, de faire un travail sur soi, c'est un choix, oui. Ça, c'est un choix qui n'est pas facile.
Il y a le libre arbitre qui joue aussi.
Et il y a le libre arbitre qui joue. Et on le voit avec toutes les personnes en difficulté qui pourraient être aidées et souvent qui n'arrivent pas à franchir le oui, pas. Oui. Alors, pour diverses raisons, mais en tout cas, ça fait partie de leur liberté de choix, d'aller demander de l'aide et de se faire aider.
Alors, donc, sur la liberté, on entend dire pas mal de choses.
C'est sa liberté, il fait ce qu'il veut, ou le contraire, j'ai pas le choix, je fais ce que je peux.
Oui, et, c'est des choses qu'on entend, oui.
Et du coup, y a des personnes qui se perçoivent comme libres de leur choix, tandis que d'autres se vivent plutôt comme contraints, obligés ou même emprisonnés. Souvent par les circonstances, d'ailleurs, ils pensent pas forcément que ça vienne de l'intérieur, mais plutôt que ça vienne de l'environnement. Et puis d'autres, parfois, ça va être plus un sentiment d'incapacité à faire autrement. Alors là, c'est plus intérieur. J'y arrive pas, je me sens incapable. Voilà, mais toutes ces questions, ou toutes ces formulations, ça pose la question et de la liberté. Alors peut-être plus intérieure, mais pas seulement. On verra que l'environnement intervient. Et surtout du libre arbitre.
Voilà, du libre arbitre. Alors, le libre arbitre, c'est aussi une question importante.
Alors, au niveau. Alors, c'est important dans la
liberté. La liberté,
vie de chacun.
Parce qu'on parlait de la liberté, oui. Mais le libre arbitre, voilà.
C'est d'abord important pour chacun dans sa vie quotidienne. C'est aussi un thème important au niveau religieux. On le sait, en tout cas dans la tradition chrétienne, on dit que l'homme a son libre arbitre, qu'il est créé libre, mais en même temps, il est marqué par le péché originel. Et d'ailleurs, saint Paul ne manque pas de nous rappeler les limites de son libre arbitre quand il dit qu'il fait le mal qu'il souhaite pas et qu'il ne fait pas le bien qu'il souhaiterait.
C'est de ça qu'il parle, hein, dans un langage d'aujourd'hui.
Voilà.
Aujourd'hui, dirais-je, j'ai pas le libre arbitre.
Oui.
La liberté de choix que voilà, toujours que j'aimerais avoir.
Oui. Ou je fais pas ce que je veux, ce que je veux, ou je fais pas ce que j'aimerais, je fais ce que je peux.
Oui, voilà, c'est ça. Hein. Mais lui, il l'a bien traduit et de cette façon-là. Voilà, je fais le bien que je ne fais pas, le bien que je voudrais. Je fais le mal que je ne voudrais pas. Je fais pas le bien que je voudrais. Ouais.
Voilà, et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous, pour tous les humains. Et ça montre un conflit qui peut exister en chacun, d'abord, entre le bien et le mal, et puis des limites du libre arbitre de chacun. Alors, ça rejoint aussi la notion de péché, parce que pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait un libre arbitre, ou en tout cas une certaine dose de libre arbitre. C'est-à-dire que la personne doit avoir conscience du mal qu'elle fait, et un degré de liberté, enfin de. Il faut la conscience et le libre arbitre ça relève du péché.
Péché. Donc, pour que ce soit volontaire quelque part.
Voilà.
Vraiment, hein, c'est ce qu'on dit. Oui. En confession, voilà, ça relie. Si c'est volontaire, pour que ce soit volontaire, il faut qu'il y ait un degré de liberté quand même et de libre arbitre.
Oui.
Si la personne en est prise complètement.
Eh bien, non. Elle a pas de liberté et du coup, ça relève pas du péché. On retrouve d'ailleurs l'équivalent dans la société laïque,
oui.
Avec la question de responsabilité pénale ou d'irresponsabilité pénale.
C'est ça.
Voilà, ce qui montre que la société, alors là on est en plein dans l'actualité, revendique aussi cette liberté, comme tout un chacun.
Oui.
Mais on verra que c'est pas si simple que ça, en fait.
C'est pas si simple que ça, non. Non. Alors, ça veut dire que la liberté, c'est vraiment, ça relève d'une... Tout être humain aspire à la liberté.
Oui, c'est vraiment une aspiration humaine, à la fois individuelle et sociale aussi.
Et sociale, bien sûr.
En tout cas, dans nos démocraties. Mmh. Et qu'elle s'inscrit dans toutes les dimensions de l'être, cette aspiration à la liberté. Alors, d'abord physique, la liberté de mouvement... Aujourd'hui, depuis un certain temps, ça fait quand même, on parle de liberté sexuelle aussi.
68 à peu près.
Voilà. Intellectuelle, la liberté de pensée et d'expression. Mm-hmm. Alors là, on peut avoir une pensée pour Charlie, les gens de Charlie Hebdo. Cette liberté d'expression, une liberté affective de pouvoir exprimer ses sentiments. Il y a eu toute la question du mariage pour
c'est
tous.
C'est encore
aussi.
L'actualité, oui, donc dans l'actualité. Hein.
Voilà, et puis enfin, une liberté spirituelle, la liberté religieuse de pouvoir vivre sa religion en toute liberté, et c'est aussi d'actualité.
L'actualité, oui.
Voilà, et le libre arbitre. Alors, j'ai choisi un peu des exemples, peut-être un peu provocateurs sur certains thèmes, mais.
Il y a l'histoire du genre aussi, c'est d'actualité.
Oui,
En
tout cas, ça montre l'aspiration à la liberté, qu'elle est d'abord indépendante de toute notion morale. Il y a une aspiration à la liberté, et ensuite. Il y a les questions morales qui viennent se poser.
Qui vont apporter
une limite
oui.
Un cadre.
Un
cadre dans lequel va pouvoir s'exercer cette liberté.
C'est ça, oui. Alors, ça, c'est au niveau, à la fois, on peut dire, de l'aspiration profonde de l'homme.
Oui, de tout homme, hein. Et en même temps, si l'homme aspire à cette liberté, il est aussi pris dans des schémas de comportement, dans des blocages, dans répétitions.
Mmh.
Autrement dit, il est pris dans des champs de force, comme nous disait saint Paul, par rapport au bien et au mal, qui l'influencent et qui parfois le privent de sa liberté.
Mmh. Alors justement, vous parliez de champs différents qui peuvent interagir avec la liberté.
Oui, sur les choix. Et on verra finalement que c'est l'adhésion à nos propres valeurs. Alors ça, c'est à la fois individuel et collectif, mais que c'est l'adhésion à des valeurs et un engagement dans sa vie, dans la société, qui donne cette liberté.
Alors, le concept de liberté, justement, puisque c'est important pour l'être humain, nécessite quand même d'être clarifié, et justement, surtout dans notre culture occidentale, parce que l'Occident, particulièrement, aspire à cette liberté. On voit bien toute l'évolution, en fait. Mais peut-être que ça nécessite d'être clarifié, parce que peut-être que c'est mal compris, justement.
Alors, c'est souvent mal compris. Dès qu'on parle de liberté, en fait, on se trouve dans la situation de concilier une juste aspiration à la liberté et une juste répréhension. Parce qu'on imagine mal une société où chacun laisserait libre cours à toutes ses pulsions, où chacun ferait ce qu'il veut.
Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux,
voilà,
ça
fonctionne pas.
Ça fonctionne pas, non.
En tout cas, pas pour vivre ensemble.
Pas pour le vivre ensemble.
Et la société, elle suppose un équilibre entre la liberté et puis l'interdiction liée à la loi.
Ben oui.
Donc d'avoir des règles, des lois qui encadrent cette liberté.
Alors des lois aussi bien extérieures que intérieures. Il y a des lois internes.
Alors il y a les deux.
Il y a les deux.
Voilà, oui. Il y a ce qu'on. Les lois intérieures, c'est la fonction de ce qu'on appelle en psychologie le surmoi, mm-hmm. donc qui nous donne une morale,
oui.
et donc qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. Et puis, dans la société, mais on retrouve les mêmes lois.
Oui. Ce qui est bien, ce qui est mal.
Voilà,
on
nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. Oui. Ce qui rejoint aussi les 10 commandements avec ne pas tuer, ne pas voler.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui, c'est les lois de base.
Pour vivre.
Et universelles, on peut dire.
Universelles, dans quelle que soit la société. C'est une loi de base d'abord individuelle pour être équilibré soi-même et puis collectif pour pouvoir vivre ensemble.
Donc c'est important de poser tout cela, surtout aujourd'hui.
Voilà, d'autant plus qu'on est dans une société qui vit cette opposition d'une manière paradoxale.
Oui.
Parce que on a hérité d'une injonction paradoxale en 68 qui est « il est interdit d'interdire ».
Oui, c'est ça, on entendait ça. Oui.
Mais comment on peut interdire si c'est interdit? Et c'est là où il y a un paradoxe dans cette phrase. On ne peut pas interdire d'interdire, puisque à partir du moment où on l'interdit, on contredit ce qu'on dit. Voilà. Et on retrouve ce paradoxe aujourd'hui dans bien des revendications à tous les niveaux, et en même temps dans un système qui est à la fois plus répressif. Alors
permissif et répressif en même temps,
voilà.
Par certains aspects, oui.
Voilà, et finalement, parfois la tolérance devient aussi une excuse à l'intolérance. Et on peut dire qu'il peut y avoir des formes un peu de totalitarisme qui revendiquent de cette liberté.
Voilà.
Et ça, c'est le problème des sociétés à tendance narcissique, on pourrait dire.
Ah oui.
Voilà, mais on est de plus en plus dans une société comme ça.
Mais c'est bien de le dire parce que quand on voit tout ce qui peut se passer dans notre société, notre culture, et puis nos sociétés, c'est quand même le fruit d'une société narcissique.
Voilà,
du point de vue psychologique.
Voilà, qui évolue vers des fonctionnements de plus en plus narcissiques. Autant on a été dans une société de devoirs, autant ça bascule progressivement et
à l'opposé. Merci Pascal Barinet. Donc, puisque nous parlons de liberté, bien sûr, nos auditeurs sont invités à nous rejoindre au 01 56 56 44 00 et nous écoutons tout de suite Nana Mouskouri qui chante, bien sûr, je chante avec toi, Liberté, cette adaptation de Verdi. Voilà.
Radio Notre-Dame.
je chante avec toi Liberté, Nana Mouskouri, donc retrouve les accents de Verdi, adaptés d'une façon plus populaire. Ce soir, donc, nous parlons du libre arbitre, liberté, libre arbitre. Quel est notre degré de libre arbitre avec Pascal Parinet qui nous aide à réfléchir et à voir comment on fonctionne aussi, hein, et combien cette liberté est importante pour tout être humain. Et on est dans une société qui est où on vit le paradoxe. Hein, vous dites, c'est vrai, à la fois. Avec des accents très...
Voilà, et du coup, le paradoxe, c'est quelque chose qui est difficile à résoudre. Et c'est ce qui fait que cet équilibre entre la liberté et la loi est de plus en plus difficile. Voilà.
Alors, justement, la liberté, hein, on le dit, enfin, c'est un... Autrefois, on le disait, en tout cas. Là, on le dit peut-être moins, parce que maintenant, liberté, liberté. Mais pourtant, notre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre.
Oui, parce qu'il n'y a pas de liberté absolue.
Ben oui.
Nous sommes des êtres en relation, nous vivons ensemble, et donc nous avons à prendre en compte l'autre et à le respecter.
Bien sûr.
Et se croire totalement libre, ça serait pathologique.
Ben oui.
On n'a pas une liberté absolue.
Non, absolue,
et du coup, notre liberté, elle est aussi restreinte par le fait de vivre ensemble. Et puis la loi est là pour nous en fixer les limites.
Oui, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on a un peu oublié ça. Parce que l'être humain a tellement envie de liberté, on voit bien même les lois et tout ça, qu'il a perdu un peu la conscience de ça, que par le vivre ensemble, en fait.
Oui, alors, mais ça où il y a,
paradoxe,
où y a un paradoxe, c'est à la fois l'être humain perd cette conscience-là, et en même temps, quand on regarde, on est obligé, ou enfin, en tout cas, il y a des lois et une pression sociale qui limite beaucoup l'expression. Il y a plein de choses qu'aujourd'hui les gens ne peuvent plus dire en société parce que c'est interdit, parce que c'est mal vu, et puis aussi on veut dans tous les domaines de la société un risque zéro, enfin en tout cas il y a un aspect quand même de plus en plus restrictif dans notre société. Il y a des radars tous les 500 mètres,
toute la technique est utilisée pour... restreindre, à la fois pour augmenter, parce qu'on a des possibilités plus grandes, mais ça restreint aussi quelque part.
Les gens n'ont plus le droit de fumer, même maintenant, dans des espaces ouverts. Ou en tout cas on va vers ça. Donc on voit à la fois il y a de moins en moins de respect de la loi et d'un autre côté
les libertés
se restreignent.
Oui, oui.
Et c'est là où on voit tout le paradoxe de ça.
Ah, oui. Bien sûr.
Voilà, et je crois que la liberté, elle se situe normalement entre deux limites, qui est le respect auquel on a droit et le respect qu'on doit à l'autre.
C'est ça, le mot respect est important.
Voilà.
Et aujourd'hui, peut-être qu'on le dit, mais on le vit beaucoup moins qu'on ne le dit parce qu'on parle du respect. Enfin bon.
Oui, mais encore faut-il en avoir une conscience du respect et
à soi-même et à l'autre.
À soi-même et à l'autre. Et on pourrait dire au-delà du respect, soit qu'il y a agression. Quand on respecte plus l'autre, on l'agresse. Ou emprise. L'emprise est une autre forme de manque de respect qui est agressive aussi.
Oui, parce qu'on met la main sur l'autre, donc sur sa liberté.
Sur l'autre. Oui. Voilà.
Alors, Vous avez posé là les principes de ce que serait la liberté. Mais qu'en est-il au niveau psychologique, alors? Vous parliez de champ de force.
Alors, on a vu qu'il y a des champs de force, mais on va d'abord poser la question du libre arbitre, parce que le libre arbitre, c'est pas la liberté.
Ah oui, alors faisons bien la différence entre liberté et libre. Parce que j'ai l'impression que on confond, enfin, on fait pas de nuance.
Oui.
Aujourd'hui.
Le libre arbitre, c'est la liberté de choix. Donc c'est pas tout à fait la même chose, et donc le libre arbitre concerne la capacité à choisir et à pouvoir s'engager
dans la direction choisie.
Dans la direction choisie. Mmh. Voilà. Et quand on confond les deux, on est dans ce qu'on pourrait appeler de l'égotisme.
Oui.
C'est-à-dire des personnes qui ramèneraient tout à eux-mêmes. Et la liberté et à la liberté justement qu'ils auraient à faire ce qu'ils veulent.
Mais c'est peut-être un peu ça aujourd'hui. Il y a cette confusion là.
Voilà, oui. Et j'avais un ami qui avait affiché dans son entrée « Nous sommes tous égaux ».
Oui.
Mais en jouant, parce que il y a égalité, liberté,
oui,
égalité, fraternité, oui. Il est repris.
Mais c'est le langage des psys, quand on parle d'égo, c'est autre chose. C'était dans ce sens-là.
Et c'était dans ce sens-là, en l'écrivant.
Nous sommes tous égaux.
Égaux avec G-O-S.
D'accord.
En jouant sur l'homophonie. Et voulait rappeler que nous pensons en priorité à nous-mêmes et non pas à l'autre. Alors que l'égalité, elle, suppose la prise en compte de l'autre.
Eh oui. Ouais. Eh oui, c'est même donc quelque chose même d'opposé, là.
Voilà, ce qui veut dire qu'une liberté, quelqu'un qui aurait la conception d'une liberté totale, bien, il est dans l'égotisme et non pas dans l'égalité.
Mais là, on voit, il y a quelque chose, comme vous disiez, de pathologique là-dedans, non?
Voilà, il y a quelque chose de pathologique. Et justement, le libre arbitre, il est là pour permettre de prendre aussi en compte l'autre.
Hein? Ben oui.
Parce que c'est ce libre arbitre qui, à la fois, nous donne cette liberté à choisir, à s'engager, mais en prenant en compte l'autre.
Ben oui, c'est ça. Donc là, on y voit déjà un peu plus clair, là. Hein? Ça ouvre un peu notre espace pour mieux comprendre. Alors, quels sont les facteurs qui limitent notre libre arbitre?
Alors, le premier facteur, ça va être les facteurs familiaux. Les gens ont rarement conscience de l'impact de leur histoire familiale, alors même s'ils en reconnaissent certains aspects. Mais ce n'est vraiment que tard dans la vie en général, ou alors en ayant fait un travail sur soi, qu'on mesure toute l'importance des liens familiaux. Voilà, en même temps, personne ne peut le nier que ça a une importance. Mais aussi que souvent, cette influence, elle est également inconsciente pour une grande part, et que dans certains cas, elle peut même influencer, voire déterminer une partie de la vie d'une personne.
Justement, d'autant plus qu'elle est inconsciente.
Voilà. D'autant plus quand elle est inconsciente. Alors, on sait tous l'importance de notre éducation, de tout ce qui nous a été transmis. Mais voilà, on se rend pas compte de l'aspect inconscient de ce qui a été transmis. Alors, parfois, ça a un impact sur le libre arbitre et peut même en priver l'individu qui va gérer sa vie, en quelque sorte, non pas à partir de choix libres, mais en fonction de sa famille. Alors, soit dans une recherche de reconnaissance, soit dans une forme d'opposition, mais qui reste quand même de la dépendance. Soit dans la répétition familiale. Voilà. Mais sans que la personne se rende compte que beaucoup de ses choix sont dictés comme ça Soit par le besoin de reconnaissance, l'opposition à sa famille ou à ses parents, enfin, voilà.
Et en répétant
des scénarios familiales ou des modèles familiaux.
Ouais. Alors voilà un facteur important, les facteurs familiaux, qui limitent le libre arbitre. Tant qu'on n'en a pas pris conscience, ou travailler sur soi, ou pris une distance, enfin, d'une façon ou d'une autre.
Mûrir. Couper le cordon,
Couper le cordon, oui. Et puis, autre facteur.
Alors, l'autre facteur, c'est l'environnement socio-culturel, parce qu'on vit en société, et tout individu, s'inscrit dans différents groupes sociaux, amicaux, professionnels, de loisirs et religieux. Et l'appartenance à un groupe suppose l'adhésion à ses centres d'intérêt, à ses valeurs, mais aussi à certains principes et à certains modes de fonctionnement. Mmh. Ce qui est normal, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Chaque groupe fonctionne
avec ses propres règles. Mais du coup, l'individu doit se conformer parfois au groupe pour avoir sa place dans le groupe. Et dans le cas contraire, il risque de se sentir soit coupable, soit exclu. Et parfois, ça va être les membres du groupe qui vont le culpabiliser ou le rejeter même. Ça peut arriver.
Donc voilà, et pour pouvoir s'insérer dans un groupe auquel il adhère quand même, plus ou moins, enfin, avec certaines valeurs ou certains goûts, je ne sais pas, mais il faut qu'il s'y insère ou alors il est...
Autrement, il va y avoir exclu. Alors après, ça dépend de la nature des groupes.
Oui, bien sûr.
Mais je crois que pour tous les groupes, et notamment les groupes religieux, les églises au sens large du terme, on est attentif à être attentif à cela. Parce que, comme dans tout groupe, il y a des règles, des habitudes, et on peut parfois juger ceux qui correspondent pas à notre vision ou à notre vision de la foi. Et ils peuvent alors se sentir rejetés ou exclus. Mmh. Et je pense par exemple à certains divorcés, alors de moins en moins, qui vivaient la double peine à la fois de subir l'épreuve du divorce et parfois ils subissaient complètement, c'est-à-dire que c'était pas eux qui avaient choisi et ils subissaient
Le choix de l'autre en fait.
Oui. Et puis le regard ou le jugement négatif, par exemple de certains paroissiens. Mais ça peut être sur des années, des faits plus ordinaires même. Ça peut être sur le fait que les enfants bougent un peu pendant la messe. Ça peut être sur sa tenue. Ça peut être sur les horaires d'arriver en retard ou pas à la messe.
Sur les chapeaux, mais les chapeaux, on en porte.
Voilà.
Donc c'est pas sûr.
Voilà ce qui fait que tout groupe peut avoir ses règles et puis à la fois autant on disait le cadre est important parce que c'est ce qui permet de vivre ensemble, autant il a besoin d'un petit peu de souplesse pour que ça fonctionne bien.
Voilà, donc on voit où ça peut c'est...
Voilà, et puis il y a des fois où c'est bien plus grave, et on voit ça par exemple chez les extrémistes, et quand j'avais préparé cette émission, je ne savais pas encore les événements qu'il allait se passer, mais je pensais plus aux jeunes qui partaient en Syrie par exemple. Une actualité un peu plus ancienne.
Oui. Qui a toujours cours,
Et on peut dire que finalement, plus la personne rejoint un groupe fermé, fermé psychologiquement, j'entends, et plus la contrainte risque d'être importante. Mm-hmm. Et dans ce cas, l'individu, il perd son libre arbitre face à la pression du groupe. parce que c'est se conformer ou être rejeté. Mmh. Et pour certains, ça va être un choix impossible. Parce que, ben voilà, je pense à ceux qui partent faire la guerre, c'est mourir ou mourir, finalement. Hein.
Oui.
Le choix, il se réduit à peu de choses.
Oui.
Hein. Enfin, c'est aller au combat ou mourir. Et du coup, ils ne peuvent que subir la loi du groupe. Une fois qu'ils sont arrivés. Une fois qu'ils sont rentrés dedans.
Donc, voilà. Mais c'est un peu le cas peut-être aussi du mouvement sectaire. Hein.
Alors, c'est tous les mouvements sectaires, voilà, oui.
C'est très...
Tous les groupes extrémistes ou sectaires.
Merci, Pascal Parinet. Bah, écoutez, on va réfléchir à tout ça, le temps d'écouter en même temps ce chant de... C'est Liane Folly qui chante. Alors, elle, on a tous le droit. Oui, mais... on a tous le droit, mais limité quand même par le droit de l'autre.
Voilà.
Hein,
et le droit de la société.
Et le droit de la société.
Radio Notre-Dame.
On a le droit. Personne nous voit de pleurer en silence, de regretter son enfance, de se laisser aller en regardant tomber la pluie. On a le droit, quand personne nous croit, de sortir sa violence, tous ces mots qu'on dit pas mais qu'on pense. De parler à Dieu, de parler à qui on veut. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous une chance, c'est pas perdu. On a le droit, quand rien, plus rien ne va, de chercher son étoile, de jeter l'encre de son journal, de changer sa vie, de quitter l'ennui. Et puis, on a le droit, et qui nous en empêchera? On a tous raison de se poser des questions.
Voilà, c'était donc Liane Folly. On a tous le droit. Tous le droit, mais voilà, on disait que quand même nos droits sont quand même limités par ceux de l'autre et puis ceux de notre de la société. Hein.
Et ceux de la société, oui.
Alors oui, vous évoquiez bon, des choses qui sont d'actualité.
Voilà, qui sont les aspects extérieurs et environnementaux qui limitent le libre arbitre et la liberté de choix.
Oui.
Alors, mais il y a aussi des facteurs internes à la personne.
C'est ça, parce que, oui, si elle choisit, choisit si on peut dire, si elle va dans une direction, elle est poussée, peut-être intérieurement,
voilà,
c'est
la conjonction des deux, à la fois de l'environnement et du psychisme individuel.
Alors qu'est-ce qu'il en est de cet aspect-là ?
Voilà, un des premiers facteurs, ça va être les mécanismes de défense. On a tous développé en nous des mécanismes parce qu'il était nécessaire justement pour vivre en société et s'adapter à cette vie en société. Mais ces mécanismes sont devenus la plupart du temps inconscient et automatique, et ils vont influencer notre perception de nous-mêmes et des autres.
Oui.
Voilà. Alors, ils servent à la fois à nous adapter à notre environnement, mais aussi à s'en protéger. C'est-à-dire qu'ils ont cette double fonction d'adaptation et de protection.
Et c'est bien.
Ce sont des mécanismes tout à fait utiles et indispensables à la vie en société. Justement, parce qu'ils participent à notre adaptation sociale. Mais en même temps, au fur et à mesure qu'ils sont devenus inconscients, l'individu les utilise. Ou plutôt, ils agissent dans l'individu sans qu'il s'en rende compte. Et même quand quelqu'un lui fait remarquer, il va se justifier en disant que c'est normal. Alors, je vais en prendre, on va pas les citer tous parce que, on va en prendre un qui est le plus courant, c'est le contrôle. Le contrôle, c'est un mécanisme de défense. Et pourtant, chacun va se dire, mais c'est normal de contrôler. Eh bien non, ce qui est normal, c'est de maîtriser. Il y a une différence entre la maîtrise et le contrôle, ou de vérifier éventuellement. C'est différent encore de contrôler, même si dans le langage courant, on utilise tous ces mots-là un peu de la même façon. Mais on va prendre un exemple. Par exemple, une personne qui a besoin de retourner vérifier une fois si elle a bien fermé sa porte. Ça, c'est normal. La personne normale... elle va maîtriser, c'est-à-dire elle va, en sortant, elle va fermer sa porte à clé et elle maîtrise la chose et elle n'a pas besoin de revenir.
Elle est à ce qu'elle fait, elle voit, elle fait.
Ça c'est la maîtrise. Après, on peut avoir un petit doute et puis se dire, tiens, est-ce que j'ai vraiment fermé ma porte ? Et je vais aller vérifier. Donc, on est dans la vérification. C'est encore normal ou acceptable. Mais si on a besoin de revenir 5 fois, ou si après avoir vérifié, on continue encore à se poser la question toute la journée, est-ce que j'ai vraiment bien fermé ma porte ? Alors là, on est dans un mécanisme de contrôle.
Ah,
on n'est plus ni dans la maîtrise, ni dans la vérification.
Oui, on comprend là, c'est...
Voilà, et du coup, ça montre comment le contrôle est différent de la maîtrise, parce que le contrôle concerne la peur de ne pas maîtriser. Et c'est pas la même chose. Et donc, ça concernait cette peur de ne pas maîtriser et tous les doutes psychologiques qui peuvent habiter la personne. Alors, le contrôle, il peut s'étendre à tous les objets. Par exemple, les personnes qu'on dit maniaques dans le langage courant, pas dans le langage psychologique, mais dans le langage courant, ben, ils vont essayer de tout contrôler, que tel objet soit bien à tel endroit, dans telle position. Voilà, ça, c'est du contrôle.
Et si ça n'est pas de vraiment...
de tout remettre...
Minutieusement. Oui, mais c'est pas la minutie, voilà, c'est du contrôle. Oui.
Parce que ce contrôle extérieur, souvent, les aide à contrôler ce qui se passe à l'intérieur d'eux.
Ah oui, c'est comme une projection. Enfin...
Voilà, en contrôlant l'extérieur, ils essayent de contrôler leur conflit intérieur. Voilà, et puis, parfois, ça peut s'étendre chez d'autres à contrôler leur entourage. Par exemple, un hiérarchique qui va contrôler son collaborateur au lieu de contrôler son travail.
Ah oui, c'est différent.
C'est pas la même chose. Un responsable en entreprise, il est chargé de vérifier
le travail est fait correctement.
Et non pas de contrôler la personne.
C'est toujours pareil. Quand on parle, enfin, c'est autre chose, mais il y a le péché et le pécheur, il y a le travail et la personne. Enfin,
voilà, il y a toujours cette distinction à faire. Et on pourrait dire, le contrôle, c'est un des mécanismes les plus courants à l'âge adulte. Mais il y en a plein d'autres, comme les préjugés, tous les jugements a priori, la projection de ses ressentis sur l'autre, l'oubli, le refoulement, le déni, ou encore tout ce que les personnes appellent des blocages. Je me sens bloqué. Tout ça, ce sont des mécanismes de défense.
D'accord.
Voilà. Alors, en même temps, ils sont à la fois naturels et font partie de l'adaptation. Mais le problème se pose d'abord quand ils deviennent inconscients, que la personne ne choisit pas. Et que du coup, elle le vit comme une contrainte. Ou quand elles sont inadaptées à la situation présente.
Ah oui.
Voilà. Alors. Et puis, quand ils sont répétitifs et amènent toujours dans les mêmes impasses, quand ils sont trop rigides et du coup empêchent la liberté et le libre arbitre, et finalement, quand ils sont source de souffrance.
Alors voilà, ça pose problème à ce moment-là.
Voilà. Et à ce moment-là, la personne a perdu en grande partie son libre arbitre, ou en tout cas une grande partie.
Donc c'est, lorsque c'est inconscient, inadapté aux situations présentes.
Répétitif.
Oui, ça mène à une impasse.
Trop rigide.
Oui.
Et source de souffrance.
Oui, oui. Donc là, on voit quand ces mécanismes ne sont plus adaptés.
Voilà. Ouais. Et quand la personne n'a plus la possibilité de choisir, c'est-à-dire la personne qui retourne trois fois vérifier sa porte, elle le vit comme une obligation presque.
Ah, oui.
Sinon, elle va angoisser. Si elle y pense toute la journée à son travail, est-ce que j'ai bien fermé ma porte,
ça l'obsède
et elle n'a pas la liberté de choix de dire tant pis, je verrai bien ce soir en rentrant.
De toute façon, je peux rien y faire là.
Voilà.
Et finalement de lâcher prise. Donc il n'y a pas cette liberté de.
Il n'y a pas la liberté de lâcher prise.
Alors ça, c'est un certain c'est une des situations où on manque
de libre arbitre.
De libre arbitre. Voilà, il y en a d'autres au point de vue interne.
Alors, il y a tout ce qui est manque de contact ou coupure, soit avec soi-même, soit avec les autres. Voilà, quand on parlait des mécanismes de défense, ils vont de pair avec des coupures dans notre être. Alors les coupures, c'est un peu en quelque sorte des points aveugles dans la personne.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas consciente là.
Elle n'est pas consciente d'une partie d'elle-même.
Mm-hmm.
Hein. Elle perçoit pas ou elle ne ressent pas. Et on pourrait dire d'ailleurs le mode le plus fréquent de coupure, c'est par rapport au ressenti. C'est-à-dire aux sensations corporelles. La personne n'a plus la conscience de ses sensations corporelles, sauf dans la douleur, sauf quand vraiment elle se fait mal. Elle a plus conscience des émotions et de ses sentiments. Voilà, les coupures les plus fréquentes, c'est soit les sensations corporelles, soit les émotions, soit les sentiments.
Et ça vient de... On va voir ça, peut-être.
Voilà, c'est un mode de défense qui a été mis en place.
Pour pas souffrir
face à des situations douloureuses, souvent. Ou en tout cas qui ont été mis en place dans l'enfance et qui est devenu un mode de fonctionnement...
À l'âge adulte. Courant, oui, c'est
voilà.
ça.
Alors l'inconvénient, c'est que ça prive aussi de la capacité de réflexion, parce que quand on est coupé de ses émotions ou qu'on a des réponses toutes faites, ben il n'y a plus de possibilité de réfléchir, de se remettre en cause, de se poser les bonnes questions.
Oui.
Voilà. Et la personne qui se coupe comme ça de ses sensations, elle utilise son corps souvent en le mettant sous tension et en respirant un minimum. Ce qui permet d'isoler les ressentis et de ne plus en avoir conscience.
C'est pour ça que finalement, le travail thérapeutique va souvent porter sur... des sensations corporelles,
voilà,
émotions, sentiments,
sur la reprise
la
de conscience,
aussi, oui.
Alors que la personne prenne conscience de comment elle respire, comment elle est tendue, de prendre conscience de tous les ressentis corporels et de ses émotions pour pouvoir les gérer, et non pas de s'en couper. Parce que de toute façon, quand c'est présent, ben ça agit dans la personne. Mais il vaut mieux en être conscient et le gérer que ça agisse à son insu.
Alors, finalement, c'est reprendre possession
de l'unification de son être, c'est remettre aussi de la fluidité dans les différentes dimensions de l'être pour que ça puisse communiquer en nous et avec les autres. Voilà, parce que sinon, si on n'a pas cette conscience globale de son être, eh bien, on est privé de son libre arbitre.
Voilà, donc on va y revenir dans quelques instants. Pascal Parinet, je rappelle à nos auditeurs le téléphone 01 56 56 44 00. Avec ce thème ce soir, quel est notre degré de libre arbitre? Voilà, nous attendons et nous accueillons vos appels.
Radio Notre-Dame, parole d'évêque. Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de la rédaction de Radio Notre-Dame à 9h15 et 19h50. Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque de France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 9h15 et 19h50 sur Radio Notre-Dame.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi. C'est du lundi au vendredi à 6h33 sur Radio Notre-Dame.
Écoute en direct, réécoute, web radio, Radio Notre-Dame, c'est partout et à tout moment de la journée grâce à notre site internet radionotredame.com. Vie de la radio, temps fort de l'actualité, témoignages. Vous êtes déjà plus de 3000 à nous suivre sur Facebook et plus de 5000 abonnés à notre compte Twitter. Vous likez Radio Notre-Dame en un clic. Venez vous aussi rejoindre nos réseaux sociaux, partager et commenter notre actualité, votre actualité. Place à l'interactivité, rendez-vous sur nos applis Apple et Android et sur notre site internet radionotredame.com.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Ce soir, en compagnie de Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines, le thème « Quel est notre degré de libre-arbitre ?» Alors, on va peut-être finir avant de voir ce que vous avez aussi, peut-être dans ce sens, comme oui. Stage, on peut voir, justement, vous nous disiez que les personnes qui, finalement, ont peu conscience de la globalité de leur être, ne ressentent que peu de choses, et donc, quand on est privé de son ressenti...
On est aussi privé du libre-arbitre.
Voilà, donc de libre-arbitre. Alors, à quoi cela est-il dû ? Parce que, voilà, c'est important de savoir à quoi c'est dû.
Voilà, alors, souvent, c'est dû d'abord à des souffrances vécues dans l'enfance, quelles qu'elles soient, hein, d'une façon générale. Ça peut être dû aussi à une éducation trop stricte, trop rigide, trop stricte. Parfois à des traumatismes, alors là, qui vont vraiment créer une coupure dans l'existence, dans la continuité de l'existence. Alors, ça veut dire, bien sûr, que la personne, elle n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé, ni de ses coupures. Mais le fait qu'elle persiste à l'âge adulte, ça pose la question de qu'est-ce qui fait qu'une personne continue à utiliser ces défenses-là, qui ne devraient plus, qui sont plus nécessaires. Qu'est-ce qui fait qu'elle reste coupée de son ressenti et du coup privée d'une liberté de choix? Et souvent, en fait, c'est le fait d'éviter la souffrance qui ne fait que la prolonger. C'est-à-dire, toutes ces coupures, elles ont été mises en place pour éviter de souffrir. Mais finalement, ça fait que la prolonger.
C'est ça. On voudrait éviter, mais ça ne fait que prolonger.
Voilà. C'est un peu, on pourrait dire un peu quelqu'un qui se fait une blessure et qui veut pas la désinfecter parce que ça fait un peu mal de la désinfecter. Ça risque de s'infecter, de faire encore plus mal.
Donc on peut...
Voilà.
On peut peut-être voir, est-ce que, je suppose que, vu le sujet, vous devez avoir beaucoup de choses dans vos propositions de...
C'est-à-dire que tout travail sur soi, finalement, vise à...
Ah, c'est le but. Le but, c'est justement atteindre ce libre-arbitre.
Voilà, le but, c'est d'être pleinement conscient de soi, ou de plus en plus... parce qu'il n'y a pas d'absolu non plus dans ce domaine-là. Donc d'être conscient et d'élargir son libre arbitre, sa liberté intérieure, comme on dit. Voilà, donc ça, c'est faire la vérité sur soi pour pouvoir exercer pleinement ou de plus en plus son libre arbitre. Alors, oui. Ben voilà, tout travail qu'on fait sur soi, ça mène à ça.
À ça, oui. Selon selon ce que chacun, la problématique de chacun, quoi.
Voilà.
Il y a un choix de dans les différents stages.
Prochainement, ben, on a un stage sur comment gérer son histoire, donc autour de l'histoire familiale, mais qui va au-delà aussi, qui rejoint aussi l'histoire personnelle, du 26 au 27 janvier, donc à la fin du mois. On a un stage sur la confiance en soi et l'estime de soi les 30 et 31 mars. Voilà, et puis un stage sur l'image de soi et le regard des autres. Donc là, c'est comment sortir du regard des autres pour exercer son libre arbitre au mois de juin, les 22 et 23 juin.
Voilà, 22 et 23 juin. Donc voilà des propositions. Hein, et voilà. De toute façon, il y en a tout au long de l'année, selon les.
Voilà,
les
et,
le, et oui.
Le téléphone, c'est le 06 60 15 79 60.
Oui. 06 60 15 79 60, oui.
Voilà, et le site internet, c'est IFPSY, IF comme institut de formation et PSY comme le début de PSY.
Même PSY, oui.
Voilà, IFPSY.com.
Donc c'est simple. Voilà, merci Pascal Parinet. Écoutez tout de suite Marie-Christine qui est en ligne. Bonsoir Marie-Christine.
Et bonsoir madame. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Voilà, je vous appelais parce que j'ai vécu une expérience qui est finalement assez contradictoire. Parce que j'ai été suivie dans ma jeunesse pour des troubles psychiatriques, quoi, enfin psychologiques. Bon, je m'en suis sortie. Et en fait, en partie grâce à l'approfondissement de ma foi, enfin je veux dire, ma foi est descendue dans mon cœur, quoi, ça m'a beaucoup aidée. Mais en fait, c'était une époque où du point de vue chrétien, je me rendais compte que je cherchais, si vous voulez, à donner de moi une image trop belle. Enfin, je veux dire, j'avais une sorte de besoin de, à mes propres yeux, de grandir ma propre image, quoi, de me voir mieux que je n'étais,
oui.
De donner cette impression aux autres. Bon. Et en fait, je me rendais compte, mais c'était absolument impossible d'arrêter, enfin,
de faire
d'arrêter
autrement.
Ça, quoi. C'était, ouais. C'est pas, enfin, je le ressentais comme ça, en tout cas. C'était pulsionnel, quoi. Je n'arrivais pas à maîtriser ça. Et je me disais, c'est pas cohérent sur le plan chrétien et tout. Et en fait, quand je me suis convertie dans le renouveau charismatique, ben, j'ai vécu quelque chose, enfin, une acceptation de mes limites, de ce que j'étais en tant que personne qui pouvait pécher, qui était limitée humainement, etc., qui m'a complètement aidée à... C'est une attitude qui s'est arrêtée presque instantanément, enfin, ouais. J'exagère, mais c'est presque ça. Et en fait, il y a eu des paroles de connaissance qui ont été dites dans des groupes charismatiques sur moi, des groupes sérieux, quoi, des gens sérieux, et qui me disaient que la conversion devait porter là-dessus, quoi.
Oui.
Et qui enfin, c'était un peu une façon, c'était dit une telle façon que ça me responsabilisait un petit peu par rapport à ça, si vous voulez. Alors moi, je le ressentais comme pouvant pas le maîtriser. Mais est-ce que et puis en même temps, tel que j'entendais, j'avais l'impression que c'était un peu dit comme un péché. Enfin, c'est pas très clair pour moi, mais enfin bon.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une contradiction apparemment.
Mais il y a une contradiction, c'est-à-dire que à la fois c'était quelque chose que vous subissiez. Et en même temps, à partir du moment où vous en prenez conscience, après, il vous appartient de prendre les moyens nécessaires pour le corriger. Vous voyez ? Mais ça tombe bien parce que c'est juste ce dont on allait parler juste après vous. Mais par rapport à la question que vous posez, vous subissiez une exigence morale trop ou en tout cas un idéal plutôt trop important. Voilà. Alors, le fait, alors, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect, c'est que par votre conversion, sans doute, vous avez déplacé cet idéal. C'est-à-dire que, finalement, l'idéal, c'était plus votre image, mais c'est devenu Dieu. Donc, ça, déjà, ça a dû vous aider, dans ce sens-là, à déplacer l'idéal de sur vous. Et puis, le deuxième aspect, c'est que, quand on prend conscience d'une problématique personnelle, après, on, même si on l'a subi, on conserve toujours la liberté de se faire aider, d'en faire quelque chose. Et ça vous appartient.
Oui, peut-être qu'effectivement, je m'étais pas, je n'avais pas soucié de ça, si je puis dire. Oui. Dans ce sens, peut-être qu'effectivement, je n'ai pas pris toutes mes responsabilités, quoi.
Voilà,
C'est-à-dire à partir du moment où on commence à avoir conscience, quand vous étiez totalement dans la... Vous n'aviez pas conscience, donc là, vous n'étiez pas dans
Oui, ou alors parfois, les personnes ont un peu conscience, oui. Mais ils
ne peuvent pas,
ils sont dans le fait de subir.
De force, oui.
Mais du coup, quand il y a une prise de conscience comme ça, à travers Alors là, c'est des paroles de connaissance, mais ça peut être à travers...
Oui, enfin ça, non, mais ça, c'était... J'ai eu les paroles de connaissance, là, c'est changé, hein. C'était pas un problème, c'était plus un problème.
D'accord.
Mais avant, vous voyez, j'en avais conscience, mais je sais pas, cette conscience me faisait peur, même, vous voyez, je n'osais pas affronter.
Ah oui, oui, bien sûr. Parce que vous n'avez pas la possibilité.
Oui, j'ai l'impression que j'étais pas armée pour ça, enfin, je sais pas.
Voilà, mais c'est pour ça que les psy existent et que...
Oui, mais pourtant, j'étais suivie en psychiatrie, mais je sais pas, ouais. J'étais suivie en psychiatrie, mais je sais pas, ça m'aidait pas vraiment. Ça
d'accord.
Voilà. Mais disons qu'elle me disait elle me disait effectivement que c'était une forme d'orgueil, quoi, que c'était quelque chose de, un idéal trop fort de soi, quoi. Ouais. Mais je sais pas, je pouvais pas m'en passer, quoi.
Ouais.
Mais je sais pas, peut-être que. Mais vous pensez qu'on est dans le péché dans ces cas-là ? Enfin, je sais pas.
Vous voyez, ça, alors ça, c'est à discuter avec un prêtre, mais je pense que quand il y a. C'est vraiment la question et de la conscience et de la liberté. Quand on subit complètement et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un libre arbitre par rapport à ça, on n'est pas dans le péché. Mais quand on a conscience et qu'on a une possibilité d'agir, à ce moment-là, oui.
Oui. Ben, j'avais conscience. Alors peut-être qu'effectivement, je ne me posais pas toutes les questions que j'aurais dû me poser ou que je ne sais pas. Oui, peut-être.
Voilà, mais en même temps, si vous étiez suivi en psychiatrie, je pense que vous étiez pas vraiment dans le péché parce que vous donniez déjà des moyens pour faire quelque chose, et si ça continuait, c'est que c'était aussi plus fort que vous, voyez.
Mais on sent que là, il y a une évolution chez vous, là, on sent.
Ah oui, il y a une évolution faramineuse depuis des années. Hein.
Oui, c'est justement, là donc, les choses se déplacent forcément quand on évolue, parce que vous ne pouviez pas, peut-être que maintenant, il y a une possibilité plus grande de...
Oui, c'est ça, en fait, j'ai été très aidée parce que, par quelque chose de contradictoire, justement, c'est-à-dire que je suis tombée dans un groupe où, en fait, c'était un groupe de partage spirituel, et en fait, comme je n'allais pas bien à l'époque, je parlais, j'avais presque 30 ans, enfin 29 ans, je parlais tout le temps de mes problèmes personnels, si vous voulez. Bon, j'essayais de mettre du dedans, mais enfin, les gens étaient stupéfaits par la longueur de mes prises de parole et par le fait que je parlais tout le temps de problèmes psychologiques, et ils se sont sentis très agressés par ça.
Ouais.
Et ils me l'ont fait sentir de manière très rude, quoi. en me disant que j'étais complètement tournée vers moi-même, que c'était du narcissisme, de l'égocentrisme et tout, et que bon, je n'étais pas à l'écoute des autres et pas à l'écoute de Dieu, qu'il fallait que ça change. Enfin bon, ils m'ont cuisiné pendant plusieurs séances pour me, comment dire, pour me, me dire que voilà, qu'il fallait que je me tourne vers Dieu, etc. et tout. Et en fait, je suis sortie. Puis à la fin du groupe, bon, ils m'ont dit, bah, de toute façon, bon, tu vas essayer de changer, c'est bien, mais bon, tu es trop lourde pour qu'on te porte, et puis de toute façon, ce genre de parcours ne te convient pas. Bon, je pouvais comprendre ça. Mmh. J'ai dit, bon, bah, c'est un échec, ça peut arriver. Ils m'ont dit, oui, mais c'est de ta faute. Bon, ça, j'ai moins apprécié, parce que je dis, on est toujours un peu de côté, quoi, dans ces cas-là.
Ouais.
Donc, en fait.
La façon de le dire comme ça, déjà, c'est pas.
Ouais.
Pardon?
Je dis déjà la façon de vous dire ça comme ça,
voilà.
Oui,
dire
alors,
à l'autre, c'est ta faute.
Culpabiliser.
Oui.
Et en sortant de là, je me suis dit bon ben en plus j'avais un problème avec un groupe chrétien en plus qui parlait vraiment avec beaucoup d'assurance au nom de Dieu. Alors je me suis dit bon ben alors c'est bizarre quand même. Je suis toujours culpabilisée parce que je me sens trop ceci ou trop cela. Mais je suis dans une religion qui parle de miséricorde. Et comment fait-il que j'ai pas recours à la miséricorde, quoi?
Mmh.
Et je me suis dit qu'après tout, Dieu était venu pour les bandits, et bon, et je me suis tournée vers lui, quoi, vers sa miséricorde. J'ai fréquenté certains groupes, etc., charismatiques et autres, hein. Et en fait, à Saint-Gervais, notamment. Et j'ai fait vraiment l'expérience de l'amour du Seigneur dans la prière, dans mon cœur, quoi.
D'accord.
Et ça m'a vraiment beaucoup aidée, et j'ai pris conscience que Dieu m'aimait tel que j'étais, etc., quoi. Mmh. Et vous savez, je crois que et j'ai réussi à m'accepter telle que j'étais, avec mes limites,
ouais,
etc. Et vraiment, ça m'a complètement équilibré, quoi.
Voilà,
même,
mais
il m'a fallu quand même l'aide des médicaments.
Voyez, pour avoir... ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut être vigilant à ne pas juger les autres, à pas avoir des jugements trop hâtifs comme ça, et encore moins à les culpabiliser en disant « c'est de ta faute ». Mais d'être dans l'accueil, et c'est ce que vous avez pu vivre ailleurs, dans un autre groupe.
Voilà.
Oui, oui,
voilà, mais vous allez voir, je vais développer.
D'accord,
après,
je vous écoute.
Merci en tout cas, Marie-Christine.
C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Au revoir.
Vous aussi, bonsoir. Alors justement, on va un peu développer, puisqu'on disait que. La personne n'est pas responsable de ce qui peut arriver là.
Oui.
Voilà, dans certains cas, Marie-Christine a donné un témoignage.
Voilà, je pensais à une phrase de Sartre en même temps qu'elle parlait. C'est l'important n'est pas ce que l'on a fait de moi, mais ce que je fais aujourd'hui avec ce qu'on a avec ce qu'on a fait de moi.
Oui, c'est ça. Ouais. Ah. Donc voilà. Alors. Où se situe, on peut dire, le problème quand...
Alors, voilà, c'est en fait ce que nous expliquait
Marie-Christine.
Ça rejoint ce que je voulais parler juste après, qui est une conscience morale ou un idéal trop exigeant.
Ah ouais.
C'est-à-dire quand la conscience morale... où l'idéal devient trop exigeant, eh bien, finalement, ça prive l'individu de son libre arbitre.
Ah oui.
Parce que une conscience morale, alors trop exigeante, elle devient tyrannique, et elle mène à la culpabilité. Et du coup, la personne agit par culpabilité ou pour échapper à la culpabilité, mais plus par libre choix. Et puis, un idéal trop élevé, ça donne une contrainte de perfection énorme. Et du coup, la personne est obligée de répondre à cette contrainte de perfection. Voilà.
Et ça peut mener à l'orgueil, par exemple, ça. Un idéal trop élevé qui donne une contrainte
alors,
de perfection. C'est...
Non, ça, non, ça mène plutôt souvent...
Oui.
À des sentiments de ne pas être à la hauteur, de ne pas...
D'accord.
Voilà. Ce qui mène à l'orgueil, c'est une compensation. C'est-à-dire que face à ces sentiments-là, face à un idéal trop élevé, la personne va compenser son sentiment d'infériorité ou son sentiment de ne pas être à la hauteur par une image d'elle-même trop élevée. Mais c'est plutôt de l'ordre de la compensation par rapport à un idéal trop exigeant.
C'est ça. Alors, c'est pas tant de l'orgueil que d'une compensation.
Ben, l'orgueil, c'est une forme de compensation,
oui.
Voilà, de... comment qui consiste à survaloriser son image, mais s'il y a ce besoin de survalorisation de son image, ça veut dire que en face ou plus profondément, il y a peut-être une faille.
L'inverse, oui.
Il y a peut-être une faille narcissique.
Oui, c'est la compensation, oui.
Voilà.
Alors, on va y revenir là dans quelques instants, Pascal Parinet. Puis nos auditeurs aussi sont invités à nous rejoindre. Oui, on se retrouve dans quelques instants.
La Bible, pas à pas.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne. Que dirais-tu de m'accompagner chaque semaine, pas à pas, sur le chemin de la Bible?
Ok, mais pour quoi faire?
Pour y ramasser des petits cailloux blancs. L'idée, c'est de s'arrêter à chaque symbole attaché à un personnage biblique.
Ah, comme la colombe de Noé ou le buisson ardent de Moïse.
Ou même les lions du prophète Daniel.
Et tu nous aideras ainsi à comprendre les Écritures.
C'est ça.
La Bible, pas à pas, avec Jocelyne et Étienne Tarnot. Tous les dimanches à 9h30 sur Radio Notre-Dame.
Chaque semaine, Radio Notre-Dame vous propose de vivre les offices en direct. La messe pour les malades, le jeudi, à 14h45, célébrée à Notre-Dame des Victoires. Les vêpres du dimanche, à 16h, depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et la messe du dimanche, en direct de Notre-Dame de Paris, à 18h30.
Parce que la musique ouvre les portes de l'âme, le père Claude Olivier nous mène à la baguette et nous emmène tous les lundis et mercredis à 16h dans un voyage intérieur pour explorer avec lui les trésors de la musique sacrée. Les grandes heures de la musique sacrée, tous les lundis et mercredis à 16h sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Virginie de l'équipe du téléphone du dimanche. Depuis 30 ans, tous les dimanches, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en leur permettant d'écouter les messages que leurs familles et leurs proches transmettent en direct grâce à notre standard. Car quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ceux qu'on aime. Votre message est un lien précieux et vital, car en entendant la voix d'un parent, de son ami, de son enfant, les détenus reprennent courage et confiance en l'avenir. Alors vous aussi, soyez fidèles à ce lien unique qui redonne l'espérance. Et retrouvez-nous tous les dimanches de 17h à 18h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir avec Pascal Parinet, nous parlons donc de libre arbitre. Hein, voilà. Et je vous invite à nous rejoindre au 01 56 56 44 00. Alors, voilà, on évoquait
La conscience morale
trop exigeante
et l'idéal trop exigeant, en disant que ben, si c'est la morale qui est tyrannique, ça mène à la culpabilité, et l'idéal tyrannique, ça mène à une contrainte de perfection, mais que les deux privent du libre-arbitre, parce que la personne doit être parfaite au risque de se sentir coupable, et elle n'est plus du tout en mesure de poser des choix justes et libres. Mmh. Elle agit sous une contrainte psychique interne.
Voilà.
À la fois interne, puis parfois un peu par la vision du regard des autres aussi. Voilà. Et à l'extrême, alors, quand la conscience morale, l'idéal du moi et l'image de soi, donc on en parlait avec l'orgueil, s'unissent, mais d'une façon, c'est-à-dire quand il y a une exigence morale trop élevée, un idéal trop élevé.
Qu'est-ce que ça donne ?
Et une image de soi trop élevée.
Ah oui.
Quand les trois sont trop élevés,
oui, qu'est-ce que ça donne
le fanatisme. Et on voit bien que le fait, tout ce qui est fanatisme n'est pas un libre choix, mais une forme un peu de pathologie.
Ouais. Et c'est quand c'est trop élevé, quand tous les trois.
Quand les trois sont trop élevés, à la fois la morale.
Oui.
enfin, quand ils fonctionnent ensemble, mais oui, il faut déjà qu'ils soient élevés pour qu'il y ait cette contrainte. Donc la morale trop élevée, l'idéal trop élevé, l'image de soi, on pourrait dire l'orgueil trop élevé, et qu'ils s'unissent pour fonctionner ensemble, mais à l'insu de l'individu, hein, ça se passe à l'intérieur de lui. À ce moment-là, ça donne du fanatisme et tous les extrêmes qu'on peut voir dans notre monde.
Alors vous disiez par exemple que l'orgueil, ça pouvait être une compensation. Quelle est...
Oui, alors là c'est autre chose. Tout à l'heure, je parlais, parfois quand une personne a un idéal excessif, du coup elle ne sent pas la hauteur et elle peut compenser en se rassurant sur son image d'elle-même. Mmh. Voilà. Là, je parle vraiment de quand l'image de soi est excessive, mais ou trop gonflée. Oui. Je cherche un mot. L'idéal excessif, la morale excessive, mais que les trois s'arrangent parce que en général, la morale et l'idéal s'opposent plutôt à l'image de soi, c'est-à-dire souvent quand on a une morale exigeante, on va être scrupuleux et on va se sentir un pécheur, par exemple.
Donc on va pas aller dans le fanatisme.
Là, on voit qu'il y a une opposition entre la morale et l'image de soi.
Mais est-ce que ça peut fluctuer, ça peut changer?
Alors,
évolue, enfin, je sais pas.
Oui,
sais
pas, ça se travaille en thérapie.
Oui, non, changer, je veux dire, est-ce que ça peut passer d'une image... pour être dans fonction de péché à un fanatisme. Enfin,
c'est un peu ce qu'on voit avec tous les extrémistes, parce que finalement, ils y trouvent une valorisation narcissique.
Oui.
On pourrait dire ils se prennent pour des héros. Et du coup, ça plaît à la conscience morale et à l'idéal. Voilà, c'est-à-dire que quand cette valorisation narcissique devient élevée et que elle plaît ou elle rejoint dans le sens d'être en accord et de plaire avec la conscience morale et l'idéal, à ce moment-là, ça donne du fanatisme.
Automatiquement, sauf s'il y a une prise de conscience,
c'est un des risques principaux.
C'est ça, oui, de dérapage vers ça.
Voilà, de dérapage vers ça.
Alors, donc, une conscience morale, disons, trop exigeante, idéale, trop exigeant. Autre cause qui empêche la liberté de choix, alors?
Alors, quand la personne fonctionne sur un mode pulsionnel, c'est-à-dire quand elle est envahie par son affectivité ou dominée par ses instincts, alors il n'y a plus de possibilité de choix, mais ce qu'on appelle des passages à l'acte. Et ça peut concerner les instincts alimentaires. Par exemple, dans la boulimie, il y a un côté pulsionnel auquel la personne ne peut pas résister.
Oui.
Mais ça peut être aussi des aspects sexuels ou des aspects agressifs. Il y a des personnes qui disent « moi, je suis colérique, j'y peux rien, c'est plus fort que moi ». C'est simplement qu'ils sont sur un mode pulsionnel. Et dans ce cas-là, la personne subit son affectivité. On pourrait presque dire que elle est agie.
Oui.
C'est plus elle qui agit. Elle est agie par son affectivité, par ses pulsions. Voilà. Et ça, ben même si ça paraît opposé à la conscience morale, c'est souvent en lien avec une conscience morale tyrannique.
Ah bon ? Alors comment ça ? Vous pouvez nous expliciter ça ?
C'est un peu le principe d'Archimède, c'est-à-dire que plus si on met un ballon à la surface de l'eau, plus on appuie profond et fort dessus, plus il remonte fort.
Inversement proportionnel.
Voilà. Et du coup, ça, alors, une conscience morale tyrannique, mais mal organisée aussi, surtout. Donc, voilà, et ça, qui finalement, laisse passer tout le mode pulsionnel et la personne n'arrive pas, ou en tout cas, il y a un manque de refoulement.
D'accord, c'est l'opposé du refoulement, ça.
Voilà, c'est l'opposé du refoulement.
Alors, donc, autre cause alors qui empêche le libre arbitre.
Alors, une autre cause, ça peut être les blessures. Alors, même si c'est un terme assez général. En gros, toutes les plaies qui restent douloureuses et qui vont interférer dans la vie. Souvent, les blessures occasionnent des sentiments, comme le sentiment de pas être aimé, de pas être à la hauteur, de culpabilité, de rejet, de honte. Et puis aussi, elles engendrent souvent aussi des angoisses. Et quand ces sentiments et ces angoisses vont interférer avec l'image de soi, la personne va se dévaloriser, elle va perdre confiance en elle-même. Et puis, avec cette perte de confiance, eh bien, finalement, ça devient très difficile de poser des choix libres. Et elle va être plutôt dans la peur du regard de l'autre et essayer de se conformer à ce qu'elle imagine que les autres attendent d'elle.
Ah oui.
Voilà, mais encore une fois, il est possible de soigner ses blessures et d'en faire quelque chose de positif pour sa vie.
Alors... Alors, de quelle façon, alors, aussi, faire quelque chose de positif pour sa vie ?
Ben, c'est un peu ce qu'on a dit tout au long de l'émission, c'est-à-dire de... Ben voilà, quand on sent qu'on est blessé, alors qu'on éprouve des sentiments de ne pas être aimé, d'être rejeté, qu'on n'a pas confiance en soi... de se faire aider.
Oui, c'est ça, c'est pas en se faisant aider pour et retrouver puis, une orientation, disons.
Voilà, pour retrouver une juste estime de soi, une juste relation à l'autre qui permette d'être dans l'altérité et dans un rapport sain et fluide avec l'autre.
Alors, vous parliez d'idéal, tout ça, mais qu'en est-il, par exemple, est-ce que c'est un rapport avec des fantasmes ou idéal,
dans certains cas. Alors, c'est un peu différent, mais parallèlement à l'idéal, chacun porte en lui des fantasmes et une vision du monde. Qui sont liés à son vécu, alors à son vécu depuis la toute petite enfance, et à la façon dont il a été élaboré. Le problème des fantasmes, c'est que très souvent, ils sont plus ou moins conscients. Il y a une grande partie, c'est un peu comme un iceberg, il y a une grande partie inconsciente et puis... Une petite partie consciente. Mais aussi qu'ils orientent fortement la perception du monde, et ça, d'autant plus qu'ils sont inconscients. Alors, on va les retrouver de différentes façons, par exemple au niveau conscient, dans des sentiments d'être nul, d'être sans valeur... ou à l'inverse, dans des illusions de grandeur. Je parlais tout à l'heure de l'image de soi. Il peut y avoir des fantasmes de toute puissance, de grandeur, voilà. Mais du coup, finalement, ce sont ces fantasmes qui vont orienter les choix de l'individu.
Mmh. Voilà. Mais par exemple, on dit qu'un enfant, pour grandir, va avoir des modèles, oui, hein, pour s'identifier.
Oui.
Est-ce que c'est pas partie des fantasmes, ça, si c'est...
Alors non, les modèles rejoignent plutôt l'idéal du moi.
Mmh, hein. D'accord.
Les fantasmes, ce sont les scénarios internes qu'on se fait. Alors, il y en a beaucoup qui sont inconscients. Mmh. Mais par exemple, je sais pas... quelqu'un me bouscule dans le métro, après je vais me faire le scénario de le disputer, de l'agresser ou même lui mettre une claque. Voilà.
Ah oui.
Alors ça c'est
C'est une réaction interne, on peut dire.
Voilà, c'est la façon dont va s'exprimer l'agressivité, oui, la libido.
Ah oui.
Il y a d'abord dans l'inconscient, tout cela, ces fantasmes-là, on les connaît pas tant qu'on a fait un travail sur soi, tant qu'on n'a pas fait de travail sur soi. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus conscients, mais qui sont quand même en lien avec les fantasmes inconscients. Voilà, quand un événement vient déclencher le fait de fantasmer. Mmh. Alors, le fantasme, ça a un côté positif, c'est que ça nous permet d'éviter l'action. Hein? Finalement, quand on imagine qu'on est en train de corriger l'autre parce qu'il nous a bousculé dans le métro.
Oui, on passe pas à l'acte.
On passe pas à l'acte. Donc, un des aspects...
On va pas lui fiche une claque directement,
voilà,
quoi.
Un des aspects positifs du fantasme...
Pour la vie voilà, en société, c'est...
C'est de remplacer l'action.
Oui. Par un scénario interne.
Voilà,
oui,
et d'obtenir finalement une satisfaction mentale.
Oui.
C'est un fantasme agressif. D'obtenir une satisfaction mentale à la pulsion agressive plutôt que de l'obtenir dans l'action.
D'accord, oui.
Donc ça, c'est positif.
Au niveau mental.
Voilà. Ouais. Mais parfois... C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des fantasmes inconscients qui vont, eux, agir, et c'est ce qu'on appelle les passages à l'acte, par exemple, qui vont agir un peu comme des lapsus dans la vie de la personne. Voilà. Et dans ce cas-là, la personne, elle n'a pas du tout de liberté intérieure, ou
de retenue, parce que
justement ça court-circuite en quelque sorte toute la partie consciente et du libre arbitre.
C'est plus fort qu'elle, quoi.
Voilà, ça agit alors pas complètement à l'insu de la personne, mais la personne subit ça et a peu de moyens finalement pour le contrôler.
Mmh.
Ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant sur le mode pulsionnel, en fait. Hein.
Mmh.
D'ailleurs, quand on parle de fantasme, souvent les personnes pensent aux fantasmes sexuels.
Mmh.
Mais il y a aussi tout un tas de fantasmes agressifs qui peuvent exister ou de tout type.
Voilà. Oui.
Et puis des fantasmes sur l'image de soi, d'être nul, d'être incapable. Ça peut concerner
Ah, ça fait partie des fantasmes, ça peut faire partie des fantasmes.
Bah oui, parce que personne n'est nul. Tout le monde a des...
Oui, alors c'est un fantasme, oui, très négatif. Enfin, il peut y avoir des fantasmes négatifs.
De grandeur, oui. Voilà, celui qui se surestime, qui se survalorise, il est dans un fantasme. Il y a des gens... qui rêve, je sais pas, d'être... ben voilà, on pourrait prendre tous les dictateurs.
Oui, oui.
Ils sont agis dans leur fantasme, dans leur côté fantasmatique.
Rêve de grandeur, enfin de...
qu'un fantasme de toute puissance.
De pouvoir, de toute puissance.
De puissance. Oui.
Et ils parviennent quelque part à leur réalisation, si on peut dire, malheureusement.
Malheureusement, ceux-là, ça arrive qu'ils soient charismatiques,
dans le mauvais sens. Oui, dans le mauvais sens. Ça, c'est vraiment...
Et dans ce cas-là...
Ça mène le monde à sa perdition. On en a eu dans l'histoire des exemples récents.
Et du coup, ils arrivent à réaliser leur fantasme.
Oui, pour le malheur des populations.
Oui.
Voilà. Du coup,
c'est là où on peut dire aussi que la vision du monde, elle rejoint aussi celle des fantasmes.
Alors, on va peut-être voir ça dans quelques instants, hein, comment cette vision du monde rejoint celle des fantasmes. On va écouter tout de suite, puisqu'on parle de libre arbitre et de liberté. Eh bien oui, Serge Reggiani, Ma liberté.
Radio Notre-Dame.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Ma liberté, c'était Serge Reggiani. Donc on parlait de fantasmes, de vision du monde. Vision du monde, vous disiez, la vision du monde rejoint celle des fantasmes.
Oui, et en tout cas, elle est déterminante par rapport à la vie. C'est-à-dire que souvent, notre vision du monde impose ses limites à nos choix et définit en quelque sorte ce qu'on va trouver et vivre dans le monde. D'où l'importance de penser positivement.
Ben oui. Parce que la pensée, elle est créatrice, hein.
Voilà, elle est créatrice, dans le sens où elle nous enferme quelque part dans une vision du monde. Mmh. Si elle est négative, ou alors elle nous ouvre.
Oui, si elle est positive.
Si elle est positive.
Voilà. D'où cultiver des pensées positives pour nous ouvrir.
Voilà. Et c'est pas les circonstances qui font qu'on a telle vision du monde. Souvent, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est notre vision du monde qui nous amène à des circonstances.
Ah oui, oui, oui. Oui, ben c'est dans le sens où c'est créé, ça crée.
Voilà, ça, c'est mmh. créatrice.
Mmh. Oui, donc...
Voilà, et du coup, notre vision du monde, elle a un impact sur notre liberté. Alors, peut-être pas tout à fait sur le libre-arbitre, encore que certaines personnes subissent leur propre vision du monde et n'ont pas la capacité à la remettre en cause, à se poser des questions, à positiver. Mais voilà, elle nous enferme plutôt dans notre liberté qui pourrait être créatrice, parce que une des caractéristiques aussi de la liberté intérieure, c'est la créativité, qui nous permet d'imaginer des choses nouvelles, de sortir des cadres normalisés. Et du coup, quand on a une vision du monde qui enferme ou qui restreint, on perd notre créativité. Et dans les cas extrêmes, on perd notre libre arbitre parce que on subit une vision plutôt que de la remettre en cause et de s'autoriser à la changer, à la remettre en cause et
Alors, on voit combien c'est complexe, hein.
Voilà. Moi, j'aime bien l'image de la piste de ski. Finalement, notre vision du monde et nos fantasmes, c'est un peu comme une piste de ski.
Oui, c'est-à-dire.
Alors, quand on est sur une piste,
faut la suivre.
On est obligé de la suivre.
Oui.
Alors, on peut. Naviguer un peu de droite à gauche, voilà. Mais
pour éviter des endroits,
voilà.
Oui.
Mais on peut pas sortir de cette piste.
Ça peut être dangereux.
Voilà.
Dans le ski.
En tout cas, on le vit comme dangereux et dans le ski, ça peut l'être. Mais on s'autorise pas à faire un peu de hors piste pour aller voir comment c'est. Alors pas en ski, mais par rapport à notre vision du monde.
Oui.
Où on s'autorise pas à aller voir les autres pistes. On est sur cette vision et on a du mal à en sortir et à découvrir les autres visions.
Mmh. Et donc à avoir une certaine acceptation de ce que l'autre peut vivre, quoi.
Et alors plus avoir des difficultés à accepter d'autres visions, à accepter que les autres puissent vivre différemment de nous, d'accepter les différences finalement.
Oui, bien sûr. Ouais. Mmh. Alors, y a-t-il un lien entre notre vision du monde et l'estime de soi?
Oui, parce que finalement. L'estime de soi, c'est la vision de soi-même, mais de soi-même par rapport au monde. Et du coup, certaines personnes se comparent aux autres et fondent leur estime d'elles-mêmes sur cette comparaison. Mais souvent, quand on a une vision du monde pessimiste, alors... le risque, c'est soit de se survaloriser, c'est-à-dire de se dire « moi, je suis au-dessus des autres ». Et dans ce cas-là, on est dans l'orgueil. mais c'est pas une bonne chose. Mmh. Soit au contraire, si on a une vision négative ou autre, de se dévaloriser et donc de perdre l'estime de soi. Mmh. Donc on voit que les deux sont en lien, même si c'est pas la même chose, mais en tout cas c'est en lien. Et on pourrait les mettre en lien aussi avec l'idéal, c'est-à-dire que l'idéal, la conscience morale, les fantasmes et la vision du monde vont interagir sur l'estime de soi.
Mais est-ce que dans certains cas, une personne ne peut pas passer de une surestimation à une dévaluation dans un certain, quand elle a, je ne sais pas si c'est un rapport dans ce qu'on appelle vous savez quand on bipolaire par exemple où on passe d'un excès à l'autre, enfin bon, est-ce que c'est...
Oui, alors ben, dans les troubles bipolaires, alors il y a alors c'est pas tout à fait l'image de soi, mais en tout cas il y a un mode, une phase dépressive,
oui.
Donc de dévalorisation, de manque d'envie, de manque d'entrain, oui. Et puis une phase plutôt exaltée,
d'excitation,
oui. De se sentir un peu sans limite, pas ressentir la fatigue, oui. Voilà. Alors là, on n'est pas tout à fait dans l'image de soi, mais un peu.
Parce que c'est une pathologie, voilà. Donc c'est pas...
Enfin. Oui. C'est en lien aussi avec l'idéal. C'est-à-dire que dans ce sentiment d'exaltation, dans la phase maniaque, la personne a l'illusion ou l'impression de se rapprocher de l'idéal. Ce qui crée toute cette exaltation. Ouais. Tout. Et puis, dans la phase dépressive, elle a l'impression de perdre. Un cas, il y a la perte d'une image idéale avec toute la dépression, et dans l'autre cas, le retour, en quelque sorte, de cette image.
Mmh. Alors, estime de soi, confiance de soi, c'est un peu ça. Enfin,
voilà, et ça rejoint la foi, d'ailleurs, et la vision du monde, puisque dans la foi, il y a aussi une vision du monde qui nous est donnée. Voilà, mais on pourra dire que là, on parle non pas de l'aspect religieux, mais plus du pôle personnel de cette vision.
Oui, c'est
Alors, voilà. Et si une personne se fait pas confiance, ben ça la bloque dans l'exercice de son libre choix. Elle va pas oser agir.
Alors comment faire? Alors on a vu qu'on a toutes ces restrictions. Comment retrouver notre liberté? On peut énumérer un peu pour finir.
Voilà. Mais d'abord de prendre conscience. C'est la première chose, c'est de retrouver une conscience de plus en plus pleine de soi-même.
Oui.
Donc de ces différentes dimensions qu'on a vues, le ressenti, les sensations, les émotions, ces pensées aussi, d'être conscient des pensées qui nous viennent, des liens avec les autres, de comment on est en relation avec les autres. Il s'agit aussi de mettre à jour des dynamiques inconscientes, à l'intérieur de nous, soit qui nous lient avec les autres, tout ce qu'on peut projeter sur les autres. On avait vu les dynamiques familiales, les liens avec les groupes où on appartient, et la façon dont ces liens nous influencent.
Oui.
Et puis d'être conscient de sa vision du monde et de sa place dans le monde, dans tout ce qu'elle peut comprendre de limitant ou de négatif ou de survalorisant et de tout ce qui est dans l'illusion, on pourrait dire.
Oui, oui.
Voilà.
Donc, oui.
Ensuite, ce qui est important, c'est d'adhérer à des valeurs et à ces valeurs, en tout cas de les faire siennes. Et donc de découvrir ou de redécouvrir ses propres valeurs et ce qui nous enthousiasme dans la vie. Mmh. Alors, normalement, ça se fait en grandissant, on acquiert des valeurs. À l'adolescence, c'est un moment important, puis à la trentaine.
Mais c'est toute la vie, finalement.
Mais c'est toute la vie, et parce que nos valeurs, elles constituent en quelque sorte un pôle d'attraction qui guide notre vie.
C'est un peu comme
c'est un peu comme un aimant. C'est ce qui nous attire.
Alors, après ces deux étapes, le choix et l'engagement, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'on arrive à la fin, là.
Voilà, quand on a conscience de sa vie, des liens qui nous unissent aux autres, qu'on a balisés par des valeurs, à ce moment-là, le libre choix va permettre d'agir, de poser des choix éclairés et responsables.
Et donc de prendre une orientation et de s'engager dans la vie.
S'engager. Et c'est quand on réunit à la fois la conscience de soi et des choix qui reposent sur des valeurs qu'on peut être libre finalement.
Bien sûr, oui.
La vraie liberté, c'est d'être conscient. Mais aussi d'avoir des valeurs pour baliser et guider les choix.
C'est ça, oui. C'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, non, cette liberté.
Oui, je pense en ce début d'année, on peut souhaiter à la fois d'être conscient et d'avoir aussi des valeurs.
Des valeurs, oui.
Des valeurs morales, des valeurs éthiques pour guider nos choix.
Et puis, voilà, de se faire aider... si besoin est, pour retrouver cette plus grande liberté. Je rappelle le téléphone de Psy Chrétien, 06 60 15 79 60, et puis ifpsy.com.
Voilà.
Grand merci Pascal Parinet, merci à tous nos auditeurs, merci également à Marie-Françoise au standard, Guillaume à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain à 22h, écoute dans la nuit plusieurs invités. Michael Lonsdale, acteur, metteur en scène, auteur de plusieurs ouvrages. Françoise Turiès, comédienne actuellement au théâtre du Petit Héberto, dans la vie et le message de Sœur Emmanuelle. Et Pierre Barnérias, réalisateur du film M et le troisième secret. Autour du thème « L'art au service de la foi et de l'évangélisation ». Voilà, très bonne nuit à tous, à demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.